Alors, on peut faire le parallèle jusqu'à un certain point. Le parallèle, on peut le faire avec les prix. Si vous augmentez le prix de l'énergie, les gens vont faire un peu plus attention. C'est très net avec les gens comme les chaudières, au fuel. Si vous augmentez le prix du fuel, on voit bien qu'ils se chauffent un peu moins. La différence, c'est que l'énergie, vous faites une économie d'énergie sans forcément, sans forcément changer votre mode de vie. Ce qui se passe avec les transports, c'est que quand vous changez le prix du transport, vous changez fondamentalement le mode de vie. Et donc, le problème des transports, c'est l'effet rebond. Vous citez le télétravail. Ce qu'on a montré, c'est que les gens qui télétravaillent, d'abord, travaillent plus. Ils ont une pression plus forte parce qu'ils se rendent compte qu'il ne faut quand même pas qu'ils arrivent au boulot en n'ayant rien fait. Donc, ils travaillent le matin, ils travaillent le soir, c'est mélangé avec la vie de famille, etc. Donc, les gens qui ont beaucoup... ça pose un problème social, il faut régler ça. Deux, comme ils ont plus de souplesse dans leur emploi du temps, ils se déplacent plus. Donc, il y a un effet rebond le week-end. J'ai un ami... il est directeur d'une revue transport. Ça fait 20 ans qu'il ne travaille que chez lui. Il fait tout chez lui, il s'occupe de la revue, de tout, de A à Z, en maritime. Il fait tout chez lui. Dès qu'arrive le week-end, il dit à sa femme, bon allez, on part. Et elle arrive du boulot, elle voulait se reposer. Bon, ils s'arrangent quand même, ils sont restés ensemble. Mais vous voyez, le problème, c'est que quand vous avez du temps libre, de l'université de Besançon, il a un modèle où il a modélisé toute la population de Besançon, tous les ménages sont modélisés, l'âge, le métier, etc. Et il a fait tourner son modèle en disant qu'est-ce qui se passe si la moitié des habitants, ou un peu moins, peut télétravailler 2 jours par semaine. Résultat du modèle, plus 20% d'émissions de CO2. Donc il s'est dit, je me suis trompé, il bafouille, il va dans son modèle, il tourne les équations, etc. Puis il ne s'est pas trompé. Parce que son modèle était activity-based. Et si vous travaillez chez vous, ben vous pouvez commencer à télétravailler à 6 heures avant de lever les enfants. Ensuite, vous les emmenez à l'école et vous n'allez pas optimiser votre parcours en allant au boulot. Vous revenez chez vous, il y a le chauffage, vous faites un café, bref. Et puis après, vous retravaillez, puis c'est 11 heures, vous allez faire un tour en forêt pour courir. Et puis vous revenez, vous réchauffez, et au total, vous avez eu beaucoup plus de souplesse dans votre programme d'activité, et au total, vous avez plus fait de distance. Et vous en faites peut-être moins pour aller au boulot, mais vous allez plus souvent partir en week-end, et peut-être bien en avion. Donc les effets du télétravail sont très incertains, et mon point de vue, c'est que ça risque fort de ne pas baisser, je ne dis pas que ça va faire exploser la mobilité, mais de ne pas la faire baisser, parce qu'il y aura un effet de compensation. Si vous voulez, pour vous preniez ce qu'il y a dans la tête d'un économiste, outre les prix et les quantités, il y a une hypothèse sur le comportement des individus qui s'appelle la préférence pour la variété. C'est-à-dire que quand vous avez un choix entre un fromage, vous avez un fromage, une chaîne de télé quand j'étais petit. Et quand vous avez 150 fromages ou 150 chaînes de télé, c'est très difficile de ne pas zapper pour voir s'il n'y a pas quelque part sur la chaîne un truc un peu plus intéressant qu'il y a sur les autres. Et donc cette préférence pour le faire à variété fait que dès que votre revenu augmente, vous réduisez le temps passé sur une activité pour voir s'il n'y en a pas une autre qui est possible. Et le télétravail augmente votre potentiel de variété. C'est ça la mécanique. On peut appliquer ça aussi au problème des divorces, qui est fondamentalement lié à ça. Avant, les divorces étaient nuls, parce qu'il n'y avait pas de choix possible. Voilà, donc, vous ne pouviez pas quitter votre conjoint pour tout un tas de raisons. Là, maintenant, les deux personnes travaillent, et puis sur leur travail, elles rencontrent des gens, et au bout d'un moment, l'utilité du conjoint diminue, et c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez qu'on est très très frustres, nous, économistes. Mais voilà, ce qu'on dit, ça... Pour vous compreniez, j'aime bien les romans de Jean Gillonneau. Par contre, Jean Gillonneau, en termes politiques, il s'est trompé toute sa vie. On rappelle qu'il a été jugé après la guerre, etc. Dans ses dernières nouvelles, que je lis avec bonheur, parce qu'il écrit bien, il dit des conneries grosses comme lui. C'est un vieux réactionnaire, et il critique les ouvriers de chez Renault qui ont besoin de s'acheter une télévision, que c'est que cette histoire, etc. Il dit, moi, je vis simplement, regardez, je me promène avec mon père, on plantait des arbres, comme ça, etc. Alors, il dit ça. C'est un vieux réactionnaire. Et après, au fil des c'est des petites nouvelles qu'il a écrites comme ça pour les journaux peu de temps avant sa mort, il dit, ah bah tiens, je reviens de Madrid. J'ai été signé quelques bouquins. Il a eu le prix Goncourt en 1932, je crois. Donc, j'ai été signé des bouquins à Madrid. Ah bon? Et avec ça, il va nous dire qu'il vit chichement en 1950. Hein. Et puis après, il vous dit, ah mais je reviens de passer mes vacances à l'île d'Elbe. Donc, le problème, c'est que quand vous êtes riche, l'argent, vous l'utilisez. Sauf à choisir un qui s'appelle l'ascétisme. Je gagne de l'argent, je le jette. Et je continue à vivre avec le minimum du minimum. Mais non, 95 fois sur 100, quand on a de l'argent, on l'utilise. On économise, puis après on achète une deuxième maison, on part en voyage un peu loin, on le donne à ses enfants, etc. Et notre problème, c'est ça, c'est qu'on est riche. Ben oui, on ne l'a jamais dit, mais... Oui.
L'A380, dans votre modèle de vitesse sociologique, ça donne quoi?
Ben là, l'A380, une petite histoire personnelle, quand il a été testé, quand il a été lancé, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'étais directeur de mon labo et j'ai été invité à Paris avec tous les directeurs de labo qui avaient à voir avec le transport aérien. Donc moi, évidemment, n'étant ni ingénieur ni rien du tout, j'étais dans un coin de la salle, c'est tout juste si on me voyait. Et il y a quand même quelques journalistes qui m'ont dit « Mais du point de vue économique, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, je leur ai dit « Du point de vue économique, il y a de fortes chances pour que ce soit un échec comme le Concorde. »« Ah bon, qu'est-ce que vous nous dites ?» Ben, j'ai dit « Oui, parce que la 380 n'intéresse pas les Américains. » Pourquoi il n'intéresse pas les Américains ? Parce qu'il est trop long à remplir. Et que, comme il a une grande taille, ça réduit la fréquence. Évidemment, moi, quand je vais à New York, j'y vais une fois tous les... Je ne sais pas, il y a bien longtemps que je n'y suis pas allé. Qu'on me mette dans un avion de 300 ou 500 places, ce n'est pas un problème. Mais quand je suis américain, si j'ai qu'un vol le matin pour aller à New York, pour aller à San Francisco, un le soir, ça ne m'arrange pas. Alors que si j'en ai 5 dans la journée... Donc les Américains ont dit, dès le début, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut des avions de 200, 300, 300 places, pas plus. Parce que c'est facile à manœuvrer. Et puis en plus, dessous, on peut utiliser le fret. Alors, dans la 380, on ne peut pas utiliser le fret. Voilà. Et donc, cet avion coûtait cher, 4 moteurs, ce qui n'est plus la règle. Et donc, une fois de plus, les Français se sont polarisés sur le vecteur. Techniquement, on a vu parfait, enfin, voilà, aucun problème, c'est un grand succès technique. Mais, et au même moment, je me souviens, parce qu'en 2006, j'avais été avec un des patrons d'Airbus pour un truc à Amsterdam, c'était après la fusion avec Air France. Je lui avais dit, mais vous êtes en train de faire la 380 et en même temps, vous nous annoncez la 350 qui, lui, intéresse les compagnies américaines. Et maintenant, vous avez vu qu'ils ont sorti la 350 rallongée. Donc, qui a rendu obsolète. Voilà. Donc, ils ont cannibalisé, mais, encore une fois, drivé par les rêves d'ingénieurs. Voilà. Et donc, il fallait dire, ben non, la 380, c'est problématique. Donc, fonçons d'abord sur la 350. Ce qu'ils ont fait. Mais ça marche bien, Airbus. Hein. Ils peuvent se le payer parce qu'ils ont tellement d'excédents qu'ils peuvent se payer cet échec-là. Mais voyez, encore une fois, combien je vais en vendre et quelle va être la vitesse économique de l'avion pour l'utilisateur. Et l'intérêt de l'avion, c'est est-ce que je vais arriver à le remplir ? Et si je n'y arrive pas, parce que les gens ils vont aller à la compagnie voisine qui, elle, aura 4 vols dans la journée, donc ce qui compte, c'est le débit. C'est pour ça qu'Hyperloop, c'est une connerie. Hyperloop n'a aucun débit, ça n'a aucun intérêt. Vous voulez, si ça marche un jour à 1000 km/h, vous avez un débit 10 fois inférieur à la ligne TGV, ça n'a aucun sens. C'est un caprice du milliardaire. Malheureusement, on donne de l'argent pour ça en France. On finance des centres de recherche sur cette connerie-là. Bien. Oui, allez-y.
Donc, comme vous avez prononcé, qui apparaît là-haut, c'est le comportement, parce que c'est quand même. C'est une grosse variable sur l'organisation, évidemment. Avec la prise de conscience, évidemment positive, mais complètement hypocrite, et j'en fais partie complètement,
Au
niveau écologique,
oui.
Comment, là, c'est complètement de la fiction et j'en apprends, mais comment est-ce que vous voyez les prévisions sur certains modes plus polluants que d'autres dans notre hypocrisie
complètement. Oui. Moi, je pense que la logique de l'hypocrisie, c'est que les décideurs, ils ont des idées simples et ils vont se... Ah, vous voyez, c'est pas à cause de, finalement, d'Yves Cochet. C'était autre chose. Les décideurs, ils vont... ils vont se polariser sur les véhicules. Où est-ce que j'ai mis celui-là ? Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se donner satisfaction en regardant l'Union européenne à fond. Le véhicule électrique. Dans les villes, le parc va évoluer assez vite parce qu'il y a du pouvoir d'achat. La pollution va baisser, la pollution des voitures va baisser. Il y aura moins de bruit. Et dans les villes, ils vont regarder en écline. Voilà. Par contre, on va sanctuariser l'aérien. On n'y touchera pas. Même si on met un peu de taxe carbone, ça ne changera pas grand-chose. Donc on va sanctuariser l'aérien. C'est pour ça que je vous dis que... On va pas arriver aux objectifs qu'on s'est donnés, mais il y aura des grosses améliorations localement. Exactement comme aujourd'hui, le traitement des déchets a fait qu'en France, les choses vont beaucoup mieux qu'elles allaient il y a 20 ou 30 ans. Dans les usines, il y a eu des gros efforts qui ont été faits de développement durable, de traitement, ça marche. Hein. Donc il y a des choses sur lesquelles on va avancer, mais comment on ne va pas vouloir toucher à ça, bien, ce qu'on va faire à fond, c'est qu'on va toucher sur le véhicule, tout sur le véhicule, parce que pour le reste, c'est trop compliqué. Alors, si vous commencez à dire contrôle de résidentiel, on va empêcher des gens d'aller habiter trop loin des villes, on va interdire aux maires de faire des lotissements, etc. Ça se fait un peu dans les PLU et dans les SCOT. Dans la commune, toute petite commune, on a un maximum de surface carrée, de mètres carrés qu'on peut rendre habitable, mais ça n'empêche pas tout ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la carte d'André Brotteau. Hein. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des efforts, et je pense que les efforts, on les fera sur les véhicules, parce que pour le reste, il nous faudrait 4-5 étés très très chauds, avec d'énormes problèmes, plus d'eau dans toute la commune, etc., pour que là, on commence à basculer sur un certain nombre de choses. Mais bon, voilà, peut-être que ça va arriver, mais si ça n'arrive pas, en tout cas pas plus fort que les 2 ou 3 années qui se sont passées, je pense qu'il ne se passera rien. Oui, allez-y, pardon.
Oui, deux petites questions. Est-ce que dans les externalités positives de la voiture, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte toute l'industrie automobile française, les emplois, oui. etc. Qui, si à un moment ou à un autre, vous serrez le robinet, peuvent produire des problèmes. Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, je reviens sur le fameux, la solution du péage. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous avez une idée pour le rendre acceptable?
Bah oui, il y a une idée très simple, c'est de redistribuer l'argent. Ce qu'ont fait les Suédois à Stockholm, c'est que je fais du péage et j'augmente de 14% l'offre de transport collectif financé avec le péage. Vous pouvez aussi très bien dire, je donne un chèque mobilité à tout le monde. Dans chaque ville, chaque ménage reçoit 300 euros par an de chèque mobilité. Par contre, je mets un péage. Et donc, ceux qui n'ont pas besoin de chèque mobilité, qui prennent les transports en commun, ben, c'est 300 euros pour eux. Il faut trouver des moyens. Vous avez raison, la question clé du péage, c'est l'acceptabilité. Donc, il faut trouver un moyen de cibler où vont les revenus du péage. Il ne faut pas les cibler sur l'entreprise qui va contrôler les plaques d'immatriculation comme à Londres, parce que c'est eux les compagnons. C'est comme la rue et vers l'or, c'est ceux qui vendent des peines pour gagner de l'argent. Donc là, c'est ceux qui vendent le système de péage qui gagnent de l'argent. Donc il faut des systèmes simples qui ne coûtent pas trop cher. Et à partir de là, il faut réaffecter l'argent en disant bah, si vous voulez, on va baisser les abonnements PC, ou on va voire même faire la gratuité, dans certains cas, oui. Donc il faut trouver le package. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, et c'est plus efficace que de dire j'interdis tous les véhicules de moins de 10 ans, ou de plus de 10 ans, ou plus de 5 ans. Sur votre question d'avant, c'est
sur les externalités positives.
Alors, il y a des externalités pécuniaires pour les entreprises. C'est-à-dire que la voiture, elle apporte des bénéfices à Peugeot, bon, ben ça, c'est sur le marché, on n'en parle pas. Moi, j'ai pris ma voiture, avec ça, j'ai été au travail plus vite. C'est une externalité bénéfique pour moi, mais ça y est, c'est fait. Donc, ce qui a fait l'externalité, ce n'est pas la voiture, c'est la route. Et la route, elle est payée, justement. Donc, elle est subventionnée, justement, pour ça. Après, vous avez l'aspect stratégique. Si je mets des taxes sur le kérosène et que ça divise par 3 les ventes d'Airbus, là, j'ai un problème. Et c'est pour ça qu'ils vont le sanctuariser. Et donc, pour l'automobile, c'est pareil. C'est pour cela que le diesel, il va encore durer un peu plus longtemps que prévu, parce qu'on va s'apercevoir qu'on en a besoin pour sauver les usines Bosch, et on va s'apercevoir que l'électrique rencontre des limites. L'électrique est bien pour certains types de déplacements, pour d'autres, ça pose un problème. Et puis si l'électrique, c'est des Tesla qui pèsent 2,5 tonnes et qui font 15 tonnes de CO2 rien que pour la fabrication, sans parler du recyclage, on voit bien que c'est pas non plus la bonne option, hein. c'est du greenwashing. Oui, pardon, derrière même.
Je me demandais si vous voyez qu'en fait, on est toujours dans la même vitesse énergétique.
Oui.
Pour passer au saut au-dessus, est-ce que l'avion stratosphérique est une voie qui est en utopie?
Si le coût au kilomètre est au niveau du subsonique actuel, c'est-à-dire 5 centimes, ça va marcher. Moi, je pense que ce ne sera pas le cas. Bon, je pense que c'est un caprice de milliardaire. Ah, c'est tout. On a deux problèmes. Un, on est riche. Deux, on est démocratique. C'est-à-dire que la majorité de la population a accès à la voiture. Aujourd'hui, une grande majorité de la population a accès à l'avion, de temps en temps. Et donc, capacité de soupçonner que ça a été de se démocratiser. Alors, quand j'entends les Elon Musk qui nous parlent d'aller sur Mars, les subsoniques, les hyperloops, je dis, mais attendez, il y a un problème. Ça, par définition, compte tenu de la quantité d'énergie qu'il faut, c'est, et du débit qui est lamentable, ça n'a qu'un intérêt pour des milliardaires. Donc il faut le dire. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que c'est que la vitesse économique, et comprendre ce que c'est que la vitesse généralisée, et voilà, j'ai rencontré M. Villani, c'est pas à lui que j'allais apprendre ce que c'était une moyenne harmonique, hein. Je lui ai expliqué pourquoi Hyperloop c'était une fumisterie. Et en fait, pourquoi je l'ai rencontré, parce que lui il est élu, mais l'équipe qui est à l'Assemblée nationale, qui sont des fonctionnaires, qui les ont tous vus passer, les élus, depuis des années, ils m'ont fait venir en disant, essayez de le convaincre, c'est une connerie, quoi. Et pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que les gens d'Hyperloop, pas l'Hyperloop, le premier projet, mais l'équivalent, ils sont venus les voir en disant, écoutez, on va faire Hyperloop, ça ira pas aussi vite que ce que M. Elon Musk a dit, on fera que du 500 km/h. Donc déjà 500, 300 pour le TGV, 350, je me dis, est-ce que c'est utile? Ah, puis on a oublié de vous dire un truc, Elon Musk a dit que ça coûterait 10 fois moins cher que le TGV, en fait, ça coûtera le même prix. Donc, des types qui, sur étagère, vous vendent un produit, le produit est toujours sur étagère, hein, il est sur étagère conceptuelle, et déjà, ils vous disent, il ira 2 fois moins vite et il coûtera 10 fois plus cher. J'ai dit, M. Villani, écoutez, moi, quand un camelot me dit ça, je ferme la porte. Bien sûr, parce que le prochain rendez-vous, vous allez me dire que ça va coûter le prix d'une Rolls. Donc, on va arrêter les frais. Eh bien, Cédric Villani, il n'a pas pu s'empêcher de faire un rapport très favorable en disant, oui, les perspectives, la vitesse, etc. Mais parce que tout Villani qu'il est, je lui avais pourtant donné des documents, il n'a pas lu ça. Parce que ça il n'a pas le temps, c'est un politique, donc il n'a pas le temps.
Est-ce qu'on peut parler de vitesse, on a parlé beaucoup de vitesse économique, est-ce qu'il y aurait une sorte de définition de vitesse environnementale?
Ben c'est la vitesse socio-économique. Si vous avez un mode, et c'est le problème de l'avion aujourd'hui, c'est qu'il émet du CO2, et il semble qu'en haute atmosphère, il y a un forçage radiatif qui est plus important. Donc s'il faut taxer les avions, et les taxer beaucoup plus que ce qu'on taxe la voiture, dans le dernier compte de transport de l'Union Européenne qui est sorti en juin, ils donnent le coût d'un avion. Ils disent un A340, c'est pas le plus moderne, qui traverse l'Atlantique, le coût des émissions de CO2 avec une tonne de carbone à 100 euros, c'est 1,36 centimes d'euros par passager kilomètre. Si d'un coup de baguette magique on applique ça aujourd'hui, ça veut dire qu'un aller-retour Paris-New York, au lieu de coûter, allez, on va dire 600 euros, il va coûter 700 et des poussières. Voilà. On rajoute 1,36 sur... Donc ça va poser des problèmes, ça ne va pas changer beaucoup le trafic fondamentalement. Par contre, si on passe à une tonne de carbone à 400 euros, et si en plus il y a un forçage radiatif qui fait que ce n'est pas 1,36, mais c'est 8 centimes, alors là, vous multipliez le prix par 2,5. Et là, on passe de 500 à 1200, 1300. Là, ça va changer les choses. Donc, oui, et là, vous avez une vitesse environnementale. Et donc, une petite voie. Enfin, vous voyez, moi, ce qui me sidère dans l'évolution du monde, c'est l'intérêt d'être vieux. C'est que quand je suis allé en 96 à Vancouver avec Jean-Pierre Offeuil pour écouter nos collègues, des Américains, parce qu'en Californie, ils ont toujours mieux fait qu'ailleurs, ils sont venus en disant, bon, allez, arrêtez de discuter, on a la solution, hypercar. L'hypercar. Et qu'est-ce que c'est que l'hypercar? C'est une voiture qui pèse 300 kg, avec un petit moteur, qui ne dépasse pas de 100 à l'heure, avec récupération de l'énergie cinétique, etc. C'est super, quoi. Sauf que c'est une voiture de pauvre. Hein. Et donc, au lieu d'avoir l'hypercar, on a Tesla. 2,5 tonnes, 200 à l'heure, 0 à 100 en quelques secondes, etc. Parce qu'on est riche. Et puis l'hypercar, ça n'intéresse personne. Donc, vous voyez, si c'est... L'environnement, il est souvent transfiguré parce qu'encore une fois, on est riche et qu'on préfère avoir des voitures confortables. N'oubliez pas qu'une Golf pesait 750 kg en 1975 et qu'elle pèse 1,5 tonne aujourd'hui. Et elle coûte moins cher, le pouvoir d'achat.
Allez-y. Donc apparemment, on va toujours avoir besoin d'infrastructures, sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un problème pour financer ces infrastructures. Quelles solutions économiques vous voyez pour... Ou, comment vous voyez le sujet un petit peu...
On discute avec Camille, mais... Le problème, c'est que il faut une solution révolutionnaire, donc ça va être compliqué.
Oui, c'est pour ça.
Il faut sortir le monde de la route du domaine du non-marchand. Quand on a fait la révolution, on a arrêté les octrois, on a arrêté les péages. Parce que, pour des effets externes positifs, on avait besoin de faire le plus de routes possible et que ces routes soient gratuites pour que ça pulse. Ça a bien marché. Les Anglais, au même moment, ils avaient plein de routes à péage, ils n'ont pas fait la révolution, ils les ont toutes supprimées. Elles ont été reprises par l'État, par les régions. Nous, on a un problème de financement. Il faut donc dire que la mobilité motorisée, elle pose un problème exactement comme le fait de consommer de l'eau, d'émettre des déchets. Donc de même qu'il y a un principe qui s'appelle l'eau paye l'eau, les déchets payent les déchets, il faut un principe qui s'appelle la mobilité paye la mobilité. Et avec les milliards qu'on prend sur la route, on en prend à peu près 40 et quelques milliards par an, il y a de quoi financer les 13 milliards de dépenses routières de France et d'en donner le reste aux ferroviaires, qui doit être soutenu, notamment dans les zones denses et dans les zones, le Grand Paris, etc. Donc l'argent existe, le problème c'est qu'on est sur un principe d'unité budgétaire auquel Bercy tient beaucoup, tout l'argent tombe dans un pot, et je suis devenu hostile à ce principe à la marge, parce que ce principe est fondé sur l'idée d'un État à statut constant. Or, plus nous sommes riches, plus nous demandons à l'État de s'occuper de tout, de la santé, des routes, des écoles, de la recherche, de tout. Et donc le poids de l'État augmente. Eh bien, le poids de l'État ne peut pas augmenter si les contributions n'augmentent pas. Et comme c'est difficile de faire payer ça uniquement par l'impôt, surtout en France où on concentre l'impôt sur les plus riches et sur les entreprises, eh bien, il faut dire, désolé, mais cette activité-là, il faut la sortir du non-marchand et il faut la mettre dans le domaine marchand en affectant les ressources, alors pas plus à la route, mais il faut bien sûr en sortir une partie pour le ferroviaire. Et si vous ne faites pas ça, vous avez la situation d'aujourd'hui, 37 milliards de TICPE, 38, la moitié à l'État, un gros quart pour les régions, mais pour l'action économique, et un petit quart pour les départements, pour le social. Et les présidents de département, moi je suis absolument sidéré, le monsieur Bussereau, que j'aime bien, ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils vont gueuler, au congrès des maires, l'État ne donne rien, on n'est pas content, l'État leur prend... La taxe foncière pour la donner aux communes. Moi, je suis maire de ma commune, donc je suis très content. Et les départements, ils gueulent un peu, mais ils gueulent comme des élus, on dirait des types dans la rue qui défilent, quoi. C'est-à-dire qu'ils font rien, ils protestent. Alors qu'il faut qu'ils proposent des solutions. Et la solution, c'était de dire, écoutez, M. Macron, votre suppression de taxe d'habitation, c'est une connerie. Bon, vous la faites, mais il faut dire aux Français qu'on ne peut pas en même temps supprimer la taxe d'habitation et dire qu'on va baisser les déficits. Donc on va la remplacer par une taxe sur les activités polluantes. Ça va s'appeler la vignette, et la vignette, on va la donner au département à la place de la taxe foncière. Mais ça, il fallait le dire dans le programme. Et M. Macron, en transport, zéro. Parce que moi, j'ai reçu un appel début mars 2017 du groupe qui soutenait Macron et qui me disait « Est-ce que tu as des idées à nous passer ?» On n'a rien. Il va être élu et on n'a rien. Voilà, le problème, c'est que la personne qui me téléphonait, c'était le bras droit de Pépine. Et donc, vous voyez pourquoi il s'est fait rouler dans la farine pour la loi ferroviaire, etc. Parce que Pépi, on va lui reprocher plein de choses, mais alors, il est plus puissant que Talleyrand en termes de lobbying. c'est remarquable, il y a un ouvrage à faire là-dessus. C'est le plus grand lobbyiste de France après Talleyrand. Il a mis tous les présidents dans sa poche, il leur a tous dicté ses conditions, et il va continuer avec son successeur. Oui.
Pardon, oui. J'ai deux questions qui n'ont rien à voir avec l'autre, juste pour rebondir sur ce que l'échange que vous venez d'avoir. Est-ce que vous préférez la vignette ou la taxation kilométrique?
Je préfère bien sûr la taxation kilométrique. Ouais, bien sûr, mais il faut d'abord l'instaurer. Donc, il y a un ministre des Transports aujourd'hui qui a un peu de vision. Il faudrait qu'il dise voilà, les voitures sont toutes connectées d'ici 5 à 10 ans. Il faut que d'ici 5 à 10 ans, le projet de l'Europe, c'est que pay as you go. Chaque voiture qui circule doit payer une somme. Exactement comme sur une autoroute.
C'est le cas pour les autoroutes déjà.
Voilà. C'est le cas sur l'autoroute. Voilà. Donc, mais pay as you go avec un système de TomTom, enfin de GPS. Et bien sûr, dans le même temps, après, on peut baisser les taxes sur les carburants. Donc il faut bien sûr le faire de l'an en an. Et donc il faut le tester. Ils le font en Oregon sur un mauvais système. Parce que si vous avez une voiture qui ne consomme rien, ils ne vous remboursent rien. Et si vous avez un gros SUV qui fait 15 litres au 100, ils vous remboursent une somme énorme. Alors que le paiement au kilomètre, sur le pays du goût, est le même. Donc le système marche à l'envers. Mais sur le principe, le système est bon. Et c'est à ça qu'il faut. Vous voyez, l'histoire des bonnets rouges, que ce projet n'ait pas été soutenu par le Premier ministre et par le Président de la République, tout ça parce que c'était un truc qui avait été voté à l'époque de Sarkozy. Donc ils ne l'ont pas regardé. Alors qu'il fallait dire, attendez, c'est un enjeu crucial. Il faut tarifier la mobilité. Et non seulement les camions vont payer, mais bientôt les voitures vont payer. Et voilà le système qu'on va mettre en place. Et comment. Il fallait que ça soit porté au sommet de l'État, c'est une affaire comme ça. c'est une telle révolution de faire payer les routes. Donc il faut d'abord expérimenter. Parce que dès que vous faites une réforme pour tout le monde en France, on sait ce qui se passe. Il n'y a pas de réforme.
Et par rapport à la est-ce que du coup il faut. Prélever en prélatisio de manière uniforme, quels que soient les.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Le pay-as-you-go peut tenir compte du type de voiture que vous avez, de son âge, notamment son niveau de pollution. Le pay-as-you-go peut très bien tenir compte de votre revenu, exactement comme ça existe dans les cantines scolaires. Donc, qu'on a des systèmes de tarification solidaire pour toutes les choses qu'on paye, que ce soit l'eau, etc., pourquoi pas, hein. Mais
ça existe.
Sur le PSGO, non.
Non,
pour l'instant, non. Ça existait, je crois que l'autre fois, sur les péages autoroutiers, on payait en fonction du type de voiture. Si vous aviez une Peugeot, c'était moins cher qu'avec une Rolls. Aujourd'hui, toutes les voitures, c'est trop compliqué à faire. On peut très bien faire ça.
Mais le jour, d'équiper la voiture,
C'est très facile à faire, bien sûr.
Et pour les transports collectifs, on va dire que c'est un vote de régulation. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire dernière, mais sans succès, à Luc Federman, parce qu'ils ont, postalisé les tarifs au TER, alors que, bon, d'une certaine manière, on aide à la mobilité, mais en même temps, on ne se donne pas les moyens de réguler. Et pour les transports collectifs urbains, de réguler, compris par rapport aux périodes horaires, etc.
Période de pointe, oui, voilà. C'est pour ça que la gratuité des transports collectifs dans les grandes villes est une connerie, parce que l'autorité se lie les mains. Elle n'a plus aucun moyen de réguler. Allez-y.
Oui. J'avais une question pour VEF, parce que j'y travaille.
Oui, mais c'est très bien.
Non, mais je ne veux pas réagir à la question de la fiscalité, parce que c'est compliqué. Là.
Enfin, oui, c'est compliqué.
Mais j'avais deux questions. La première, vous avez condamné la LOM par exemple,
il y a des bonnes choses.
Le gros statut d'AOM, complètement déconnecté de la question de la gestion du gestionnaire, on n'aurait pas pu penser le contraire, c'est-à-dire, puisqu'il y a des gestionnaires tels que les départements, le redonner un statut d'AOM aurait été peut-être une meilleure solution, enfin, dans un certain point de vue. Ça, c'était une observation. Et vous connaissez les contrats globaux de performance sur les routes, sur le financement des routes,
oui.
Parce que est-ce que vous pensez bien de cet outil
Oui, mais ça fait partie des relations entre entités publiques, etc. Donc c'est des choses qu'on sait faire avec des contrats incitatifs. Pour revenir à ce que, en tant qu'élu local, je pense le plus grand mal des régions et le plus grand bien des départements. Parce que les élus des départements, ils sont élus sur une base territoriale. S'ils ne font pas le boulot sur le terrain, on les a vite repérés. Les élus régionaux, j'en ai vu beaucoup, parce que ça fait 20 ans que je tourne dans les régions, ils sont une fois sur deux totalement nuls, ils fichent rien. Pas tous. Mais voilà, et dans les derniers débats, qu'est-ce que j'entends? Les mecs de droite qui me disent ouais, on n'a pas besoin de train, il n'y a qu'à aller des bagnoles. Et les mecs de gauche disent touchez pas à la SNCF. Voilà, c'est le niveau dans les régions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas élus de terrain. C'est des gens qui ont été désignés après des manœuvres de parti, qui siègent, et puis qui ont des grandes idées, et puis ils ne voient pas le terrain. Moi, je suis plutôt pour les départements. Et donc, j'étais pour la loi que Sarkozy avait fait voter, qui a été supprimée, qui disait les départements et les régions, c'est les mêmes élus. Voilà. Mais ils sont élus sur la base du terrain. Et bien évidemment, pour des transferts régionaux, les départements connaissent beaucoup mieux le terrain que ne connaissent les régions, surtout les très grandes régions. Donc, dans la LOM, ils ont raté le coche. Tu parlais de hold-up sémantique, dire autorité organisatrice des mobilités alors qu'on ne s'occupe pas de la route. Je suis désolé, c'est un dossier antique, hein. Tu as bien raison. Donc, il y a une ville où on va pouvoir faire les deux, c'est Lyon. Parce que c'est la métropole et le département, ils ont les routes et ils ont les transports publics. Et on va voir si le futur président de la métropole arrive, parce que ce n'est pas garanti à Lyon, vous savez comment on est, elle est un peu compliquée, s'il arrive à prendre la présidence du CITRAL, c'est-à-dire l'autorité des transports, en même temps qu'il aura à la main le service voirie. S'il a les deux dans la main, il peut faire des choses, y compris du péage, etc. Même Gérard Collomb a reparlé du péage. Donc il peut se passer des choses. Mais tant que vous séparez ça, ben voilà, regardez ce qui se passe. Madame Hidalgo s'occupe des fermes du bois sur berge, s'occupe des trottinettes, et Madame Pécresse s'occupe des trains, des bus et des métros. Et bien sûr, elle ne s'aime pas en plus. Mais même si elles s'aimaient, ça n'aurait pas duré. Parce que par définition, elles sont en conflit. Donc il faut mettre fin à ça. Et c'est pour ça que ça, c'est la faiblesse de la LOM. Et la LOM, en plus, elle a été soumise au Sénat. Donc ils ont remis en avant les infrastructures, parce que les sénateurs étaient accros à ça. Finalement, ils n'ont pas voté la loi. Et donc voilà, il y a des très bonnes choses dans la LOM, notamment sur, le, sur les data et ainsi de suite. Mais donc cette loi était nécessaire, elle est ambitieuse, mais elle est très très fragilisée parce qu'ils n'ont pas. Ils ne pouvaient pas changer, parce que la loi NOTRe, qui est très contestée, ils ne pouvaient pas remettre ça sur le métier. Donc malheureusement, c'est une loi qui est un peu paralysée.
Il y a ça, puis il y a le fait que, quand on ne change pas de casting, si on va discuter de la LOM avec les élus du GART, les élus du GART, leur problème, comme je disais, c'est de conserver le versement transport et de faire des transports collectifs en site propre. Point barre. Donc, ils ne vont pas s'embêter. Voilà. Moi aussi, j'avais essayé d'expliquer à Louinec, le chef du GART, ces histoires de route et d'exploitation de la route.
C'est pas son domaine.
Donc, effectivement, et cette histoire d'autorité organisatrice, d'exploitation de la route, même, il y avait un directeur du circuit, il y a très longtemps qu'elle commençait à converger là-dessus, quand on commençait à avoir des panneaux de messages variables sur les voies express, quand il y avait plusieurs producteurs d'informations. Là aussi, alors maintenant ça a changé, mais on disait ben, toute cette information, il faut en faire quelque chose, il faut la réguler, il faut s'en servir pour que le système marche mieux, mais personne ne s'en occupe. Quoi.
Voilà. Donc il faut aller à Oslo, à Londres, parce que là vous avez dans la même main, vous avez tout.
Pardon, j'avais deux questions, donc je fais ma deuxième question. Si je reprends toutes vos hypothèses de droite à vos conclusions, finalement, en matière de lutte contre les changements climatiques, en gros, foutu pour foutu, quoi, c'est-à-dire que il est fort peu probable qu'on arrive à réduire les émissions du secteur des transports.
Oui, pour le reste, c'est aussi autre chose. On les réglera un peu.
Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'inclusion du secteur des transports dans un ETS? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être utile ou pas?
Bah oui.
Efficace ou pas? Et sans, en déduction, le seul salut, c'est la compensation.
Oui, c'est le. Le seul salut, c'est l'adaptation.
L'adaptation est là.
Il faut prévoir que de toute façon, le changement climatique il va arriver, il est là, il faut prévoir, et tout le problème sera de connaître l'intensité de son impact. À différentes zones, il y aura des bénéficiaires, il y aura beaucoup de perdants.
D'accord.
Et comment on va s'adapter à ça?
D'accord.
Voilà. Et ensuite, effectivement, il faudrait faire de la compensation, c'est sûr. On pourrait mettre des systèmes ETS pour les transports. Alors là, mes collègues du labo, là, Charles, on travaille là-dessus. De vous donner à chaque ménage l'équivalent de 500 litres par an de carburant.
Excusez-moi, c'est quoi les systèmes ETS?
ETS, Emission Trading System.
Donc
un système de péage. J'en avais pas parlé parce que c'est les permis négociables et ça, tout le monde dit que c'est mal, y compris le pape, parce que c'est le marché. Je vous donne un droit, vous êtes à Bordeaux, je vous dis vous pouvez rouler en voiture le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis vous, je vous donne le mardi, le dimanche. Voilà. Et vous, vous n'avez pas de voiture. Vous vendez vos droits de circulation et c'est un système qui, du point de vue économique, est très performant. Et on peut faire ça, et les pauvres s'enrichissent.
Oui,
parce qu'on leur donne, on leur donne des droits, et comme ils ne roulent pas, ils les vendent. C'est le marché, le grand diable. C'est le marché. Donc, comme on va créer un marché, c'est le diable absolu. Donc voilà, et bien sûr que les systèmes ETS, des droits à circuler, ou des droits à utiliser du pétrole, tout ça c'est évident, mais regardez le transport aérien, on avait prévu de le faire. Ben voilà, les Russes n'ont pas voulu, les Chinois non plus, les Américains non plus. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas. Vous avez vu comme moi les articles du Monde, là, c'était donc mercredi, je crois, ou jeudi matin, les annonces de l'ONU qui dit on va dans le mur. Quoi. Alors vous regardez les émissions, l'article était un peu malhonnête parce qu'il disait que les Européens émettaient 8 tonnes par habitant, les Chinois 6, les Américains 18 ou 19. Il oubliait de dire que les Français émettent 4 par habitant. Parce que ça leur aurait obligé de dire qu'on avait du nucléaire. Et ça lui posait un problème. Donc, vous voyez bien que les Français sont les plus vertueux des pays développés, grâce au nucléaire.
Les émissions français,
pas du transport. Si, c'est, on est à
plus de transport.
Non, les émissions globales en France, on est à un peu plus de 4 tonnes par habitant. Non, les Européens sont à 8, et nous, on est plus bas. Donc, on est vertueux parce qu'il y a du nucléaire. Bah, évidemment. Si on n'accepte pas le nucléaire, ça pose un problème. Donc, ce que dit Jancovici, hein, disant si vous voulez vous retirer du nucléaire, vous allez plutôt aggraver les choses en termes de CO2. Donc voilà pourquoi le monde est compliqué. Vous voyez que ces choix-là sont très très compliqués à gérer. Et les gouvernements, ils surfent. Parce qu'une fois qu'ils sont élus, c'est tellement compliqué qu'ils sont en train de surfer. Hein.
Sur cette question de la restriction, finalement, dans le journal de mobilité, on avait essayé de faire passer l'idée qu'il y avait une régulation, c'était la congestion.
Oui, c'est ce qui a marché à Paris.
Mais que c'était une régulation aveugle, puisque pour le coup, on ne sait pas trop qui profite, qui ne profite pas, et que ce n'est pas satisfaisant, puisque ça n'a pas été discuté collectivement. Et qu'il valait mieux donc arriver à discuter collectivement, de priorité d'une certaine manière. Mais ça, effectivement, ça devient. Vous savez, il y a un Valant qui parlait de la boîte noire républicaine. On préfère finalement avoir une boîte noire où on ne sait pas qui paye pour qui gagne, et on préfère pas ouvrir la boîte.
On préfère l'opacité.
Mais là, sur ce genre de sujet, il vaut mieux ouvrir la boîte.
Il ne faut pas oublier un truc, c'est que la congestion, elle coûte plus cher aux riches qu'aux pauvres. C'est un truc profondément démocratique. Donc, parce que le péage urbain, c'est un truc qui permet à ceux qui ont une fois de temps de circuler plus vite. Donc c'est un truc qui profite beaucoup aux riches, qui gagne du temps. Et le temps perdu des pauvres, ben, il pèse pour peu parce qu'ils ont une faible valeur du temps. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que, idéologiquement, on peut avoir raison d'être contre le péage urbain, parce que quand vous êtes pauvre dans votre vieille bagnole, dans un embouteillage qui dure une heure, et qu'à côté de vous, il y a un riche dans une Rolls qui perd aussi une heure, il y a un certain plaisir. Non, mais je rigole pas. Il y a un certain plaisir à le voir perdre beaucoup, parce que lui, il perd beaucoup quand il perd une heure.
C'est pour ça que Yves, qui est un pauvre enseignant, voilà, prend régulièrement les rocades.
Voilà. La députée de ma circonscription m'a demandé d'animer des débats qu'elle avait organisés après les Gilets jaunes, avec d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé, c'était que leur principe, pendant trois quarts d'heure, après ça s'est un peu enrichi, c'était du ressentiment. C'était de la frustration. Il y a des mecs plein de fric à Paris, il y a des élus qui s'en foutent plein les poches, etc., etc. Ce qu'ils voulaient, c'était voir les riches descendre. Voilà. Et ça, ça explique l'hostilité au péage urbain. Vous voyez ? Parce que la congestion, le riche, il perd autant que le pauvre, et ça, c'est satisfaisant. Il perd beaucoup plus que le pauvre, pardon. Et ça, c'est satisfaisant. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison de poser la question, il faut acheter l'acceptabilité du péage. Oui, voilà, on a un riche qui prend l'hélicoptère. C'est pour ça qu'on a bien fait de l'interdire à Paris. Et dans les Alpes, quand vous voulez déposer un hélicoptère en France, c'est interdit, il faut aller en Italie, et il vous dépose un hélicoptère. En France, c'est interdit.
Oui.
Non, ça dépend de ce qui va advenir des impacts climatiques dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Si il y a vraiment des chocs qui font que la population se dit bon, ben, il faut faire quelque chose, ben, il faut y aller. Hein. Regardez ce qui s'est passé sur l'eau cet été. Dans beaucoup de communes, on manquait d'eau. Les maires sont allés voir les gens en disant bon, on lave pas les voitures, et puis surtout, on arrête tout un tas de trucs, on arrête les lave-vaisselle. Ben, les gens se sont dit bah ben, oui, parce que c'est une petite communauté. Ben, donc, si vous avez des vagues de tempête beaucoup plus importantes, des vagues de sécheresse, etc., si 5 ans suite une nappe phréatique descend, là il y aura une alerte, et là on dira, bah, écoutez, on va être obligé de. Mais ça veut dire concrètement, on va être obligé de vous appauvrir. Parce que quand j'étais tout gamin dans le village où je habite maintenant, mais j'y allais pour les vacances, il n'y avait que 4 voitures. Donc il y avait toujours du covoiturage. Le gars il descendait jamais à la ville à 5 km. Sans demander aux voisins s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Alors aujourd'hui, tout le monde a sa bagnole, voire deux, bah, tout le monde descend faire ses courses calmement, parce qu'on est trop riche. Vous voyez bien que le problème de la gestion du choc climatique, c'est qu'il va falloir réduire le pouvoir d'acheter de la mobilité.
Oui. Et alors, l'autre question, c'est toute votre innovation, c'est pour ça que c'était un petit peu énorme, vous assurez d'avoir un peu plus d'économiste et de.
Ah, bah oui,
un peu plus d'économiste, justement. Est-ce que assez rapidement, on ne voit pas. Arriver au
limite
de ces outils et rentrer dans la réglementation.
Oui, mais c'est de l'économie. Nous, économistes, on n'est pas très modestes. Un de mes collègues disait que l'économie, c'est la grammaire des sciences sociales. Donc, c'est un peu brutal. Mais voyez bien, j'en ai parlé de réglementation. Hein. L'économiste, il nous dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est un mode de raisonnement extrêmement fruste qui va tout ramener à des prix et à des quantités. Vous avez un problème, et ben c'est un problème de prix et de quantité. Donc vous voulez quoi ? Jouer sur les prix, jouer sur les quantités, jouer sur les deux. Et donc, parce que notre modèle est très fruste et très caricatural, il permet de comprendre des ajustements. Alors après, vous me posez la question en disant, mais socialement, il faut acheter l'acceptabilité. Ben, j'en dis oui. Alors, comment on accepte? Comment on paye l'acceptabilité? Est-ce qu'on le paye par les prix? Avec des primes, avec des, je ne sais quoi. Est-ce qu'on le paye par les quantités? En disant, mais on vous offre des bus et des métros en quantité. Et donc, vous voyez, l'outil économique, après, peut être pris en main par des psychologues, par des sociologues, par des anthropologues. Mais au fond du fond, nous, on dira que, parce que c'est notre vision très simpliste, ça sera une régulation par les prix et ou par les quantités. Et on fera un mix des deux. Bien sûr que l'économiste n'a pas les solutions. Ce que je vous ai expliqué, c'est un modèle heuristique, c'est un modèle d'intelligibilité. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre du marché partout, il faut mettre des taxes partout, et il faut écouter les économistes. Je vous dis que les économistes vous permettent de comprendre les variables qui sont à l'œuvre. Et après, quand vous voulez réfléchir ces variables, là, il faut tenir compte de considérations politiques, sociales, psychologiques, qui ne vont pas d'elles-mêmes. Regardez ce qui s'est passé avec la taxe, la TICPE avec les gilets jaunes. Personne n'avait prévu une réaction pareille. Personne n'avait prévu ça. Personne n'avait prévu que ça allait maintenant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la taxe qui a joué. C'était les 5 euros d'APL, c'était la baisse des retraites, c'était le fait que Macron a touché
la vitesse.
Il a touché à des choses auxquelles il ne faut jamais toucher, c'est le revenu nominal. S'il avait lu Keynes, il le saurait. On ne touche pas à un revenu nominal. Quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, si vous le mettez à 1180, vous lui donnez 1220, il dit que ce n'est pas assez. Mais si vous le mettez à 1180, il hurle. Et donc ça, ça veut dire que ce n'est pas un économiste qui pouvait comprendre ça. C'est quelqu'un qui sait comprendre quels sont les phénomènes où des choses se déclenchent. Un petit mouvement de trois fois rien va déclencher ce que mon collègue Abraham appelle le mur du sou. Le mur du sou, c'est lui qui gérait le tunnel Prado-Carénage à Marseille, qui vendait au départ très bas, et puis il augmentait le tarif. Il me disait, j'ai un problème, j'augmente les tarifs, il ne se passe rien. Les trafics continuent à augmenter. Il y a un moment où je vais taper le mur du sou. J'ai augmenté de 3 centimes, mais boum, ce qui s'est passé au Chili. Le mur du sou. Donc vous voyez, les économistes, même le conduit au Chili, ils expliquent. Mais après, c'est pas, ils n'ont pas la solution. Mais ils ont les variables. Je sais bien pourquoi on ne nous aime pas. Quand on vous dit des choses aussi horribles que l'économie et la grammaire, je savais que ça allait vous plaire.
Mais avant même le raisonnement économique, il y a les ordres de grandeur.
Oui,
et ça, c'est une de mes découvertes dans le monde, dans le vrai monde, mais pas seulement politique d'ailleurs. Les ordres de grandeur de base ne sont pas connus. Et c'est un préalable pour ensuite commencer à monter.
Voilà. Bien, merci à vous.
Merci.